Vous écoutez Radio Panique.
Bonjour, chers amis auditrices et auditeurs, et soyez les bienvenus pour cet épisode inédit du Chariot, émission consacrée au monde du tarot, qui apparaît tous les premiers lundis de chaque mois à 14h30 sur les antennes des radios Panique, 105.4 FM, au micro Anna. Aujourd'hui, pour être fidèle à notre tradition et continuer avec les histoires qui accompagnent le tarot, j'ai l'honneur de parler de son aïeul. Et oui, car c'est impossible de parler du tarot sans évoquer la cartomancie qui existe depuis la nuit de temps. Et pour nous accompagner sur cette aventure, j'ai invité Divamar Cavalcante, cartomancienne et tarologue de son état depuis plus de 30 ans. Si vous vous rappelez bien, notre invité d'aujourd'hui a déjà été de nôtre dans la troisième émission du Chariot, émission qui a été dédiée au jeu de tarot anglais Crowley, que Diva est une spécialiste, et le tarot Whitsmith. Si vous n'avez pas encore écouté cette émission, allez vite sur les podcasts des Radio Panique où vous trouverez toutes les émissions Le Chariot. Et mes chers auditeurs, notre émission d'aujourd'hui ne s'arrête pas là, bien sûr, car nous allons parler aussi de l'arcane du mois, et c'est l'arcane du numéro 12 qui se nomme le pendu. Pour illustrer notre émission en musique, j'ai choisi de vous présenter la fameuse Bachiana numéro 5 du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos. Et voici, sans plus tarder, le premier extrait. Nous venons d'écouter un enregistrement de 1948, L'air cantilena, extrait de la Baquiana brasileira numéro 5 de Heitor Villa-Lobos, dirigé par lui-même avec la voix de Ruth Correa. L'oracle le plus connu au monde est sans doute celui appelé Mademoiselle Lenormand. Marie-Anne Adélaïde Lenormand, née le 27 mai 1772 à Alençon et morte le 25 juin 1843 à Paris, est devenue la cartomancienne la plus respectée de son époque, avec le grand succès de son jeu. Mais est-ce que c'est vraiment son jeu? On va le découvrir. Marie-Anne et son frère, que nous n'avons pas beaucoup d'informations, ont perdu ses parents très tôt. D'abord le papa, Marie-Anne avait 1 an, et ensuite la maman quand elle avait 7 ans. Elle fut donc élevée à l'abbaye royale des Dames Bénédictines d'Alençon, où elle a reçu une éducation distinguée. Mes amis, voici comme promis la première partie de notre interview d'aujourd'hui avec la cartomancienne et tarologue Divamar Cavalcante, spécialiste de l'oracle Mademoiselle Lenormand, qui va nous raconter en résumé la vie étonnante de Marie-Anne Adélaïde Lenormand. Nous nous retrouverons très vite.
Elle era Marie-Anne Lenormand. Muito inteligente.
Elle s'appelait Marie-Anne Lenormand, très intelligente, et à cause des succès scolaires qu'elle avait obtenus, une enseignante lui a offert l'Iliade d'Homère comme cadeau. Marie-Anne a tellement aimé ce livre qu'elle est devenue accro et lui a complètement mémorisé. Mais Marie-Anne a commencé à se nommer l'oracle comme le personnage du livre et elle chantait des prédictions.
Até que o que que aconteceu? Num determinado ponto, ela já tinha seus 13, 14 anos.
À un certain moment, à 13 ou 14 ans, tout en s'amusant, elle chantait des prédictions comme elle avait lu dans le livre.
E a Madre Superiora não gostou dessa atitude dela.
Mais l'abbesse n'apprécia point ce comportement et lui a puni en l'enlevant son livre tant aimé.
Et Marie-Anne ficou muito chateada e naquela mesma hora se sentiu muito injustiçada.
Alors Marie-Anne, très en colère de cette injustice, a fait une prédiction en disant que l'abbesse allait tomber en desgrâce, allait être jugée et perdre les faveurs de son rang. L'abbesse, indignée par cette audace, lui a puni en lui expulsant de son école. Le plus étonnant est qu'il semble que l'abbesse a vraiment été jugée par le Vatican et a tombé en disgrâce, comme Mademoiselle Lenormand avait prédit. L'abbesse a perdu son poste et est devenue maudite par l'Église.
Expulsa da escola, Marie botou o pé na estrada. 14 anos e foi para Paris.
Mademoiselle Lenormand a 14 ans, sans famille, part pour Paris. Il existe certains documents qui racontent qu'elle est arrivée à Paris en racontant une histoire de que sur la route, elle a rencontré des gitans qui lui ont appris à jouer avec des cartes populaires très répandues en France à cette époque. D'ailleurs, il existe un tableau de Mademoiselle Lenormand avec son jeu des cartes où nous pouvons constater que c'était un bête jeu populaire connu par tout le monde et que les gens s'amusaient avec. Elle racontait que les gitans lui avaient accueilli au sein de leur communauté pendant son voyage vers Paris, mais on ne sait pas si cela est vrai.
O fato é que quando ela chegou em Paris, ela trabalhou como costureira, como faxineira, aqueles serviços.
Le fait est que, en arrivant à Paris, elle travaillait en tant que couturière, femme de ménage, et elle pratiquait la voyance. Ce n'était pas de la cartomancie, mais de la voyance. Cela s'est développé et elle a fini pour lâcher les autres activités et s'est consacrée uniquement à la voyance, avec des retours financiers qui lui permettaient de vivre correctement. Son affaire affaires florissaient, avec une clientèle de plus en plus riche. Nous pouvons trouver par Internet des écrits d'un journaliste qui raconte avoir été voir un jour son travail et qu'elle était habillée avec une cape noire décorée de chauves-souris de la tête aux pieds et que cela impressionnait. Donc, elle n'était pas seulement cartomancienne, il y avait de tout, boule de cristal, habits, elle faisait sa mise en scène, cela veut dire un vrai spectacle complet.
E essa prisão dela é que foi a grande sorte dela, porque foi na época da Revolução Francesa.
À cause de ses pratiques, un jour, Marianne fut arrêtée, mais cela a été avéré sa grande chance, car tout ça s'est passé à l'époque de la Révolution Française. Et en prison, figurez-vous, elle a rencontré des gens de la noblesse, et une de ces personnes riches de la noblesse qui est devenue sa cliente était une femme veuve qui allait être pendue. Et en consultation, car en prison, mademoiselle Lenormand continuait son travail, cette dame lui avait demandé si elle avait vraiment mourir condamnée à la pendaison. Et la réponse de Lenormand était catégorique. Non, vous n'allez pas mourir et en plus, vous allez sortir de cette prison. Vous allez rencontrer un homme très important qui va vous demander un mariage. Vous n'avez jamais imaginé une ascension sociale si grande amenée par ce mariage. Cette femme que mademoiselle Lenormand avait prédit tant de choses était Joséphine, que plus tard est devenue l'épouse de Napoléon. À un certain moment, tous ces gens étaient libérés de la prison, ainsi que mademoiselle Lenormand. Quand les prédictions de Lenormand sont devenues réalité, Joséphine, en étant en effet mariée avec Napoléon, invitait mademoiselle, qui est devenue par la suite la meilleure voyante ou cartomancienne de la cour, car Joséphine l'avait prise en charge. C'est comme ça que mademoiselle Lenormand a commencé à être de plus en plus connue et respectée. Donc, l'histoire de cette prison a fini pour être une chance pour Marianne Lenormand. À partir du moment où elle a commencé à fréquenter la cour, sa clientèle est devenue des personnages de l'aristocratie française. Voici la deuxième partie de la Bacchiana numéro 5.
Thank you.
Nous venons d'écouter la Cantilena, que j'ai présentée comme la deuxième partie de la Bacchiana numéro 5 de Villa-Lobos avec la voix de Ruth Correa. Continuons notre interview d'aujourd'hui avec la cartomancienne Diva Mar Cavalcante, qui nous raconte l'histoire de l'oracle connu par le nom de Mademoiselle Lenormand. On écoute. Donc, Diva, à un moment donné, Lenormand a créé son propre jeu.
Elle
n'a pas été la créatrice de ce jeu que nous connaissons aujourd'hui, qui utilise le nom Lenormand, car elle a continué d'utiliser le jeu français des cartes. Et il y a ce fameux tableau que nous pouvons voir Mademoiselle en train de faire une lecture avec ce jeu des cartes français. Le jeu des cartes Lenormand est apparu seulement 2 ans après sa mort et il n'a pas été créé en France, mais en Allemagne. Le propriétaire d'une maison d'édition qui avait déjà un jeu de cartes avec le nom de Jeu de l'Espoir, qui était un jeu de société pour la famille.
Pague um, leve dois, porque as cartas têm aquelas figuras.
Il y avait une promotion du type, vous achetez un et vous gagnez l'autre, car les cartes avaient le jeu français inclus. Il n'y avait aucun lien avec les pratiques divinatoires. Mais un jour, il a compris qu'en changeant de nom du jeu de l'espoir par jeu Mademoiselle Lenormand, qui était un nom très connu et respecté, il pouvait gagner beaucoup d'argent. Et il l'a fait. Mais on ne sait pas dire qui a créé les significations des cartes exposées dans le petit livret qui accompagne le jeu Lenormand.
Mais les significations sont très simples parce
de toute façon, les cartes parlent par elles-mêmes, car tout est très simple, basé sur des symboles universels de la vie de tout le jour. Ce ne sont pas des symboles abstraits comme on peut voir dans certains tarots. Un livre, c'est un livre. Un serpent, c'est un serpent. Une maison, c'est une maison. Une clé, c'est une clé. Maintenant, arrêtons un peu notre écoute de l'interview pour nous amuser avec la troisième partie de la Bacchiana numéro 5. À très vite! Nous venons d'écouter la fin du vocalise comme troisième partie de la Bacchiana numéro 5, toujours avec la voix de Ruth Correa. Et voici la dernière partie de notre interview d'aujourd'hui. Diva, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à nous raconter au sujet de Mademoiselle Lenormand?
Outro fato curioso, interessante, sobre a Lenormand, é que ela também ganhou muito dinheiro.
Autre chose intéressante qu'on parle de Lenormand est qu'elle a gagné beaucoup d'argent en faisant des publications, car quand elle a eu l'accès à l'aristocratie française et qu'une de ses passions était l'écriture, elle a décidé de devenir écrivaine. Mais le problème est que ces publications n'ont rien à voir avec les pratiques de la magie ou d'apprentissage de la cartomancie. En vérité, ces livres racontaient la vie des clients riches de l'aristocratie. Et oui, donc, elle faisait une revue de commérages comme les paparazzi actuels. Cela était extrêmement anti-éthique, car elle racontait des choses que les gens lui faisaient confiance en consultation. Et elle racontait tout ça dans ses livrets, et cela était vendu comme des petits pains. Ça a été une autre façon de gagner de l'argent. Et qu'est-ce que s'est passé avec les affaires personnelles de Mademoiselle Lenormand après sa mort?
Tudo dela foi queimado pelo sobrinho.
Toutes ses affaires personnelles, tout qui appartenait à Mademoiselle Lenormand a été brûlé par son neveu. Comme elle ne s'est jamais mariée, elle n'avait pas d'héritier direct, donc c'était son neveu, son seul héritier, qui probablement était fils de son frère et qui était un fervent catholique. Et quand sa tante est décédée, il a décidé que toutes ses affaires étaient des choses diaboliques et que sa tante était une personne démoniaque. Et donc, il a brûlé tout ce qu'il y a trouvé dans sa maison à elle, ses jeux de cartes, ses livres, ses écrits, ses objets personnels, tout. Donc, les informations que nous avons au sujet de Lenormand, ce sont des écrits de journalistes ou des choses que les gens écrivaient et parlaient à son sujet. Voilà, mes chers auditeurs, ce que nous pouvons vous raconter de la vie de Mademoiselle Lenormand et l'oracle qui porte son nom. Vous trouverez sur Instagram le nom d'Yves-Amar Cavalcante. Si cela vous intéresse de connaître davantage le travail de notre interviewée d'aujourd'hui, elle se communique en portugais ainsi qu'en anglais. Et voici la dernière partie de la Bacchienne numéro 5.
O vosso canto vem do fundo.
Nous avons écouté, comme dernière partie de notre illustration musicale d'aujourd'hui, la Baquiana numéro 5 de Villa-Lobos, la Danza Martello, avec la voix de Ruth Correa dirigée par Villa-Lobos. Et voici l'arcane de numéro 12, le pendu. Cet arcane montre un homme pendu à un arbre par un pied, mais son visage semble tranquille et pas torturé comme nous pourrions imaginer. Ses mains sont liées dans le dos et sa jambe droite est pliée, formant un triangle avec sa jambe gauche. Mais ses jambes forment aussi un 4, comme l'arcane du numéro 4, l'empereur. Donc c'est quelque chose de concret. Il y a un blocage quelque part dans sa vie. Cela peut être imposé par la vie elle-même ou par la personne. C'est un moment d'arrêt. Voici ce que j'ai lu dans le livre de Rider-Waite qui me semble être une explication positive au sujet de cet arcane. Le livre raconte: au Moyen Âge, représenter quelqu'un pendu par un pied était un symbole de bannissement. Cette personne avait tout perdu, place et bien. Cela semble terrible, et pourtant, notre pendu arbore un air souligné par une auréole qui l'indique illuminé par une nouvelle compréhension. S'il se retrouve dépouillé de tous les marqueurs de statut social comme fonction, richesse, etc., et qu'il n'a pas disparu pour autant, c'est bien qu'il n'était pas toutes ces choses. D'habitude, nous avons tendance à nous identifier à ces choses, ma position hiérarchique, ma grande maison, ma grosse voiture, sont autant de masques qui empêchent en réalité de voir qui je suis vraiment. Le pendu sourit d'avoir compris la différence entre ce qui était de l'ordre de l'ego, comme ces masques et étiquettes auxquels nous nous identifions aux yeux des autres et de notre être essentiel. Notre essence, c'est dont nous ne pouvons pas nous dépouiller sans disparaître. Par conséquent, tout ce dont on peut faire sans n'est pas nous. Voilà donc une carte de sacrifice et de dépouillement, mais dans le sens où ce moment de suspension nous permet d'identifier l'essentiel, ce qu'on ne peut pas nous enlever, quoi qu'il arrive. Voici les mots clés du pendu: suspension, s'abandonner, lâcher prise, impuissance, victime, sacrifice, don de soi, attente, délai, renoncement, dépouillement, avoir les mains liées, ne rien y pouvoir. Dans le sens négatif, cela pourrait dire que la personne en question refuse d'agir, sacrifice inutile, faire semblant que le problème n'existe pas. Cette lame veut aussi dire que le moment n'est pas idéal pour prendre une décision. Le meilleur à faire, c'est d'attendre une période plus positive. Accepter une situation, accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, poser un regard différent sur soi-même. Voilà, mes chers auditrices et auditeurs, nous arrivons à la fin de notre émission Le Chariot d'aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera le 4 juillet à 14h30 sur les antennes de Radio Panique, bien sûr, 105.4 FM. D'ici là, prenez soin de vous avec les pensées positives et soyez heureux, car la vie vaut bien et c'est bon de la découvrir en étant ouvert pour les nouvelles aventures. Au revoir.